Alors, nous sommes à Tarnac et nous sommes avec Naz et Daniel qui animent le site Kédistan.net, qui est un site qu'on a découvert il y a quelques temps déjà et qu'on visite de façon, je dirais pas quotidienne, mais en tout cas assez régulière, parce que ça nous permet de nous éclairer sur une zone qu'on est assez mal, globalement tout ce que la Turquie et les pays alentours, le Proche-Orient, et en tout cas de nous offrir un regard politique sur cette zone-là qu'on apprécie, et on est content de vous rencontrer. Pour que vous nous expliquiez un peu quelle a été la genèse de ce site, comment vous l'animez, qu'est-ce qui s'y passe, puis après on parlera évidemment bien sûr la situation dans les pays dont vous parlez sur site. Alors peut-être d'abord nous expliquer Kédistan, d'où vient ce nom. J'imagine que Kédistan c'est pas encore une nouvelle république du Caucase.
Non, en fait Kédistan veut dire le pays des chats. Kédé en turc c'est le chat. Et il y a plusieurs raisons qui nous ont fait arrêter sur ce nom. Et d'abord, le Moyen-Orient, la Mésopotamie, c'est le pays vraiment des chats, parce que la vie sédentaire a fleuri dans cette région-là. Et qui dit vie sédentaire dit culture, céréales, etc. Et souris, bien sûr. Donc l'amitié des chats et des humains ont commencé par là. Et ça nous plaisait bien, parce que c'est la région vers laquelle nous tournons nos regards. Et aussi, les chats n'ont pas de race. Et c'est vrai qu'on voit des races de chats différentes, on nous propose maintenant, mais ils viennent tous d'une seule race, et cette idée nous plaisait beaucoup aussi. Les chats n'ont pas de frontières non plus. Effectivement, ils vont chez le voisin un peu partout. Et puis, on aime bien leur caractère un peu qui ne se plie pas facilement. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Et ça nous plaisait aussi. Et puis, la consonance Kédistan-Kurdistan, personnellement, me plaît aussi. Voilà. Pourquoi le site s'appelle Kédistan ? Comment il est né, ouais. Tu veux savoir?
Alors, merci, ouais. Donc, tu peux nous parler un peu de la genèse de ce site, et puis aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Combien de personnes y travaillent?
Kédistan est né il y a 3 ans, 1er octobre 2014, très exactement. Et il est né d'un besoin, en fait. Nous, nous voulions lire des informations... savoir les choses un petit peu dites d'une façon qui nous plairait, mais on ne trouvait rien à mettre sous la dent. Et on s'est dit, bon, ben, il n'existe pas, alors on le fait. Voilà. C'était un tout petit projet très très modeste au départ. Et le manque que nous avons ressenti était juste, sans doute, parce qu'il s'est trouvé très très rapidement une place. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais, Daniel? Qu'est-ce que les lecteurs de Kédistan représentent?
Alors, je vais faire de la statistique, là. On tourne à peu près à une centaine de milliers de lecteurs par mois. Sur ces lecteurs-là, il y a 40 000 fidèles, à peu près, qui reviennent régulièrement. Et il y a 60% de lecteurs en France. Et le reste se répartit un peu partout, en Turquie, en deuxième. Donc c'est vrai qu'on s'est retrouvé sans le vouloir avec une audience et des responsabilités de fait. Donc on fait attention à ce qu'on écrit, ce qui ne veut pas dire qu'on est objectif. C'est-à-dire c'est pas parce qu'il faut faire attention qu'il faut rentrer dans ce cadre d'objectivité qui consiste à dire ce que tout le monde pense. Donc on a toujours gardé notre indépendance et nos analyses et nos façons de présenter les choses. Ceci dit, on le fait par rapport à un public. C'est-à-dire que sur certains événements, quand on réagit, on sait que on va être lu, donc on a une certaine pédagogie à donner, même si c'est pour faire passer l'analyse que l'on a. C'est pas de jargon, ça c'est un premier principe. Et puis le deuxième principe, c'est... une analyse, quand on la présente, on l'a fouillée avant, hein. On l'a complètement mise en perspective avec d'autres, etc., etc., avec des traductions de textes et autres, des choses de genre. Donc le site, c'est vrai, il a rempli ce rôle. Alors, d'autres aussi, parce que la presse mainstream, maintenant, vient nous piquer des tas de choses. On n'en est que trop content parce que notre but, c'est de faire passer de l'info, justement.
Et là, pour l'instant, en tout cas, les articles sont seulement francophones. Il y a de traductions prévues ou d'autres idées de s'élargir un peu à l'international ?
En fait, depuis le début, on a essayé de proposer d'autres langues. Mais bon, c'est une petite équipe, on n'arrive pas à être partout. Nous publions actuellement des articles en turc, certains sont traduits vers le français, et principalement en français bien sûr, mais aussi en kurde. Certains de nos articles sont traduits en kurde, par quelqu'un qui est à Rojava d'ailleurs, une contributrice, on va dire, une amie. Mais d'autres articles qui paraissent dans la presse, qui les intéressent eux, c'est elle qui choisit. C'est choisi à Rojava et elles traduisent aussi. Il y en a en anglais et en turc. Et quand il s'agit des appels, des choses un peu qui parlent à l'international, on peut trouver d'autres langues.
Il y a un auteur qui n'écrit qu'en turc sur le site et qui en fait quelque part ne parle plus de ce qu'il voit à l'extérieur de la Turquie et du Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'il renvoie vers la Turquie des questions autour des ZAD de Notre-Dame-des-Landes, de Sivens, des choses comme ça, parce que c'est quelqu'un qui est très en phase avec ces sujets, qui a séjourné à Sivens durant tout le temps de l'occupation, qui a une résidence principale à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais ce gars, il écrit simplement en turc, et il écrit sur ces sujets-là, pour les rejeter sur la Turquie. Donc là, du coup, c'est là, on fait le point inverse, dans l'autre sens.
Moi, en tout cas, quand il y a eu le coup d'État raté, donc en juillet 2015, c'est bien ça. J'allais dire le coup d'État d'Erdogan, c'est un abus révélateur. Et comme je comprenais pas ce qui se passait, mon premier réflexe assez vite, ça a été de me connecter sur Kurdistan. Est-ce que parce que justement je trouvais pas le regard, je trouvais pas j'arrivais pas à comprendre par rapport aux sources d'information, que ce soit agences de presse ou médias francophones. Est-ce que vous, à un moment, dans quelle mesure finalement la création de ce site est venue aussi pour combler un manque de votre, en tout cas par rapport vous à l'information venant de cette zone-là? Comment vous la définiriez justement la façon dont est traitée cette zone-là en général?
Si ma question est claire.
Je vais faire un jeu de mots là. Je vais faire référence à un article que j'ai écrit. Attentat Rusticlal à Istanbul, par exemple. Donc on sait comment ici les attentats sont traités sur les chaînes de télé. Et on a quelqu'un qui s'appelle Constance de Bonaventure. Qui est spécialiste pour BFM TV et qui, en fait, à partir de la rue Istiklal, a son micro à la main, il est 10h du matin. On sait depuis 9h du matin que l'attentat est attribué par l'État turc lui-même à Daesh, puisqu'il y a tellement de caméras de surveillance qu'ils ont, avec reconnaissance faciale, qu'ils ont reconnu quelqu'un, et donc ça, ils ne peuvent pas le cacher. Et elle, par contre, dans mon article, je l'explique, elle a lu le Figaro du matin. Forcément, donc le Figaro dit que c'est un attentat du PKK, et elle dit que c'est un attentat du PKK, je vous le confirme, même si le gouvernement turc dit le contraire. Bon, voilà comment les mainstream arrivent à cette caricature-là. Bon, ça a été diffusé en boucle sur BFM jusqu'au soir, hein, parce que en fait, ils n'avaient qu'un créneau satellite, je suppose, donc du coup, le direct a été diffusé jusqu'à 10h du soir, le premier direct du matin. Donc, voilà, déjà la première chose. Bon, face à ça, on peut pas rester. On se dit, mais bon, c'est quoi ça? Comment, par quels moyens on peut dire le contraire? Bon, là, il se fait qu'on commençait quand même déjà à avoir une petite audience là-dessus. J'ai écrit cet article-là parce qu'il est rigolo. Mais sur d'autres sujets, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on sait très bien à l'avance, à chaque fois qu'arrive quelque chose, comment ça va être traité. Y compris par la gauche française, hein. Faut être clair. Le coup d'État, il a été créé comme une démocratie qui fout le camp en Turquie. Or, on sait que la Turquie n'a pas été démocratique même avant. Donc, c'est complètement ridicule de faire ce genre de choses. Donc on a essayé au maximum de combler ce besoin d'expliquer ici que ce qui se passe en Turquie, s'il faut l'expliquer clairement, c'est parce que ça nous concerne ici. Pas humainement, pas par empathie, etc. Mais parce que les processus politiques qui se déroulent là-bas, on a les mêmes ici. Donc c'est par ce souci-là qu'on veut absolument que l'information passe de façon la plus éclairante possible.
Vous avez créé ce site peu de temps après la prise de Mossoul, enfin en fait le surgissement de l'État islamique. C'était en 2014. C'était un hasard, mais rapidement vous êtes devenu un média aussi lié aux Kurdes en lutte et sur un théâtre de guerre, tout en étant en France. Donc, comment vous avez fait pour... vous êtes principalement en France et vous essayez de rendre compte d'une guerre en cours. Quelles sont vos sources, votre organisation?
En fait, en très peu de temps, on a commencé à tisser tout un réseau. C'est venu vraiment naturellement. Et on n'était que quelques auteurs, et on est 30 maintenant. On n'a cherché personne. Et tous ces gens-là ont contacté Kurdistan en disant « Je voudrais écrire pour vous si vous voulez bien accepter de moi, parce que dans votre ligne éditoriale, dans tout ce que vous dites, je m'y trouve. Et j'ai des choses à apporter. » Et vraiment, il y a des gens très très divers, d'ethnomusicologues, zadistes, voilà, activistes, comme on dit en turc. Et ça, c'est la partie visible, en fait. Il y a aussi tout un réseau derrière. Nous avons des gens sur place, et peut-être pas à Mossoul, hein, on en manque d'ailleurs. Il y a un handicap pour ça, c'est la langue. Et voilà, ça nous arrête un petit peu. On n'a pas de personne qui parle l'arabe, par exemple.
Sur l'Iran, par exemple, on a essayé de solliciter plein de fois, mais on a besoin quand même de savoir si la traduction de telle ou telle chose de l'iranien, etc., n'était pas une traduction fantaisiste. Donc ça, on ne peut pas contrôler, parce que moi, je peux parler le farsi, un peu compliqué. Ce
n'est pas une question de contrôler,
contrôler.
De savoir ce qui était dit. En fait, il arrive, par exemple, dans les traductions simultanées, j'ai eu un cas de figure dans un débat. Il y avait un député qui était invité en France, Faisal Sarı Yıldız. Il a fini tout un discours qui était très libertaire d'ailleurs, en disant voilà, il faut que toute la population de la Turquie, avec toutes ses minorités, avec toute sa diversité, il faut que ça se réunisse, qu'ils se mettent ensemble. Et il parlait d'une union, en fait. Et la personne qui traduisait, au lieu de traduire union des peuples, par exemple, ou union des minorités, elle a dit union nationale. Juste après la tentative de coup d'État. L'union nationale, c'était le terme d'Erdogan. Il y a des erreurs de traduction comme ça, par exemple. Si on ne comprend pas la langue, et on ne peut pas se permettre de publier quelque chose qui contient des erreurs.
On a un exemple tout bête. C'est un article qui a fait un tabac sur Kurdistan. Bon, on est tombé, comme ça, tout à fait par hasard, sur un artiste syrien qui était dans la région de Latakia, en Syrie, et qui faisait des petits tableaux avec des galets, des représentations avec des galets, des personnages, etc. Il traitait beaucoup la question des réfugiés aussi. On est tombé là-dessus, on a fait un article coup de cœur, parce que c'était...
C'était très poétique.
Le problème, c'est que... On cherchait à le joindre, Facebook, etc. Tout est en arabe, écriture arabe, et lui parle arabe, donc compliqué pour communiquer avec lui. Et là aussi, on n'a pas pu aller vraiment plus loin avec lui, on aurait pu. On a quand même demandé à faire vérifier quelque chose, c'est que Certes, il est à Latakié. Latakié, c'est quand même la zone où il y avait les bases russes. On est peut-être en train de défendre quelqu'un de chez Bachar. Bon, comment vérifier ça? Donc là, c'est encore un cas très concret où, quand on contrôle pas la langue, on peut faire des impairs absolument fous, quoi. Bon, donc on a fait, parce qu'on avait son Facebook, mais bon, impossible de. Surtout dans ses amis, effectivement, des gens étaient identifiés très clairement comme des militaires du régime. Sauf qu'on s'est dit, bon, militaire du régime, d'accord, mais bon, il vit là-bas, dans les conditions extrêmement difficiles. Ce qui veut dire que, bon, il a peut-être lui intérêt aussi à être bien, à peu près bien avec tout le monde, s'il ne veut pas y passer non plus. Donc, mais on a quand même fait vérifier par quelqu'un qui parlait arabe, donc. Bon, mais c'est un article qui a fait 200 000 lecteurs. Enfin, c'est un truc complètement fou. Il ressort de temps en temps, il a fait le tour du monde.
Qui a été copié beaucoup aussi, même jusqu'à Al Jazeera. Arte voulait faire un reportage avec, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés après. La communication est très difficile, ce n'est pas quelqu'un qui... Il fait des choses vraiment très jolies. Ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Et j'ai essayé d'utiliser le Google arabe, mais je ne sais pas ce que j'ai écrit. Et il me répondait avec des compositions, avec des galets toujours, de fleurs. Voilà, c'était ma réponse, donc c'était impossible de communiquer.
Alors, maintenant que vous êtes une trentaine, alors comment se passe le processus de discussion? Parce que j'imagine, effectivement, c'est pas la même chose quand on est deux que quand on est trente. Et est-ce qu'il y a une ligne éditoriale qui est distincte? Est-ce qu'en tout cas, il y a des fondamentaux autour duquel vous vous retrouvez et qui ont fait que des gens se sont reconnus, justement, et ont eu envie de collaborer?
Bah, il y a le langage non jargonnant, tu l'as dit, Daniel.
Au possible. Au possible, hein, parce qu'il y a des moments où on est bien obligé de passer par là.
Parler à tout le monde. Et puis ne pas écrire des choses comme des tracts 4 pages, quoi. Et oui, il y a une ligne éditoriale libertaire, bien sûr. Et ben voilà, regardant par ce prisme, on a une façon de voir et analyser les choses.
Si on intervient sur le Moyen-Orient, c'est aussi parce que la question de la crise des États-nations nous intéresse. La mise en cause de ce qu'ont été ces États créés de toutes pièces à la règle il y a un siècle au Moyen-Orient, je veux dire, et comment ils dépérissent aujourd'hui, etc. Cette analyse politique, qui est celle qu'a faite Öcalan pour sa propre évolution d'ailleurs, donc qui l'a amené aujourd'hui à refuser la question d'État. Cette ligne-là, on peut pas passer à côté. C'est pas parce qu'on serait anard qu'on voudrait la faire, mais c'est parce que pour nous, c'est une réalité. C'est quelque chose qui s'impose, et en plus, c'est un avenir dans le terme de réflexion. On a en face de nous des gens qui nous proposent, enfin, côté kurde, un nouveau logiciel de l'après-échec de l'Union soviétique, etc. Un nouveau logiciel de l'après-échec des États-nations créés pour des tas de raisons, et qui nous propose un vivre ensemble, hein, pour simplifier, quand il y a des mosaïques de peuples. On ne va pas passer à côté. Donc ça, c'est notre ligne éditoriale, quelque part. Donc ça nous crée des lignes rouges, évidemment, obligatoirement.
Alors pour ceux qui... Dans les auditeurs de Radio Vassivière ne vous ont pas lu et ne sont pas très au courant, parlez-en un petit peu. Vous parlez, cette proposition des Kurdes, elle est surtout au Rojava, elle est aussi en Turquie, donc le Rojava, le Kurdistan syrien. Qu'est-ce qui s'organise là-bas en ce moment? Quels sont les derniers articles que vous avez publiés peut-être sur cette région-là? Qu'est-ce qu'ils nous disent?
Le logiciel qui nous arrive du Rojava, en fait, un pays en guerre en plus, C'est un logiciel libertaire dont au début on ne comprenait pas trop les... On avait d'énormes réticences il y a encore plus de deux ans par rapport à un PKK qu'on nous présente ici comme un parti ex-stalinien, très ossifié, etc. Et on nous annonce d'un coup que ce parti très stalinien, très ossifié, serait en train de faire naître à la veille de Pâques, là, une sorte de république libertaire. Ça nous a quand même assez interloqué. Donc, on s'est repenché là-dessus. Et on s'est aperçu que c'était pas nouveau du tout. C'est-à-dire que Öcalan, dès 93, à cause de la chute de l'Union soviétique et du logiciel marxiste-léniniste qui était le sien, donc qui était du coup battu en brèche, à cause de l'échec de la lutte armée pour ce processus de libération nationale. Alors dans l'optique marxiste-léniniste, c'est on commence par la révolution bourgeoise et puis après bon on doit faire une révolution nationale et après on va aller vers une révolution plus bon. Ça aussi, ça le remettait complètement en cause. Plus la nécessité de, pour simplement sa propre survie politique de son mouvement, d'avoir des propositions qui tiennent la mer. C'est-à-dire qu'il ne soit pas les vieilles recettes qu'on connaissait par cœur, c'est-à-dire l'alignement sur l'Union soviétique qui avait disparu, et puis la question de l'État qui était en train de se casser la figure, et qui en plus était celui qui tapait sur la tête des Turcs, des Kurdes. C'est-à-dire défendre un État alors que on s'aperçoit que c'est le processus même de l'État qui fait qu'on est opprimé. Ça marche plus. Donc Öcalan a besoin d'une réflexion. Il change cette réflexion et dès 93, il annonce. Ça s'est passé dans la plaine de la Beka, hein, juste avant peu de temps avant son arrestation et son exclusion par le père de Bachar à l'époque de la Syrie. Il convoque toute la presse internationale et il explique voilà, les Kurdes n'ont plus aucune envie d'un État, etc., etc. Par contre, on veut notre langue, on veut notre autonomie, mais on veut vivre avec tout le monde. Et on veut trouver, aussi bien en Syrie qu'en Irak, qu'en Turquie, des possibilités de vivre avec tout le monde. Et pour lui, c'était quelque part la réflexion, je vais me faire arrêter, de toute façon, il va bien falloir que je négocie à un moment donné avec mes geôliers. Donc, puisque je me retrouverai en Turquie, voilà la proposition que j'ai faite pour la Turquie. Il se fait bizarrement, j'espère pas être trop long là, mais il se fait bizarrement qu'à ce moment-là, il croise sous ses yeux les bouquins de Bookchin, qui est un socialiste libertaire écologiste américain, qui est encore vivant à l'époque, et il trouve là-dedans ce qu'il est en train d'essayer de théoriser lui-même. Donc il est en prison à ce moment-là, et il dit mais ce type-là, je veux correspondre avec lui. Donc par le biais de ses avocats, il y a une correspondance qui se met en route, et cette correspondance fait que Öcalan, par exemple, ou un des congrès du PKK, fait passer un message après le décès de Bookchin en disant voilà, j'ai trouvé mon maître, c'est mon maître à penser. Et désormais, le logiciel du PKK sera un logiciel socialiste, écologiste, libertaire. Et féministe. Je n'oublie pas cette dimension, effectivement, parce qu'elle est dedans. Donc voilà ce que nous offre, le PKK. Maintenant, on se dit, bon, ça se joli, c'est des paroles, ça. Le truc, c'est que c'est pas un gag. C'est qu'actuellement, dans une Syrie en guerre, alors qu'une poche au nord syrien, parce que trop éloignée de Damas, etc., a évité de se retrouver directement face aux troupes de Bachar, ils mettent en place une enclave, ils se protègent, et à partir de là, ils disent on va mettre en place effectivement ce qu'on a envie de mettre en place. Alors, d'où tout ce qui se passe au Kurdistan en ce moment, c'est-à-dire l'expérience démocratique qui essaye de se mettre en route sur la base de ce modèle. C'est hyper compliqué, on ne peut pas dire que... je crois qu'il faut avoir une approche extrêmement critique de la chose dès qu'on aborde ces questions du Rojava et du Kurdistan. Mais justement, plus on sera critique, plus on soutiendra. Plus on sera critique, plus on soutiendra. Parce que c'est par nos critiques qu'on peut le faire. Et je donne un petit exemple les brigades internationales qui sont parties combattre aux côtés au Rojava contre Daesh. Le PKK a fait un débriefing en Europe. Bon, je ne dirais pas comment ça s'est fait, mais ils ont fait un débriefing avec ceux qui étaient rentrés, parce que certains étaient blessés, d'autres malades, etc. Et ils ont passé 48 heures avec eux à leur demander qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que vous avez constaté, qui va pas au niveau de nos défenses militaires. Tout à l'heure, la militante espagnole a expliqué une chose en disant les armées non mixtes les guérillas non mixtes sont bien meilleures que les guérillas mixtes. C'est exactement ce que ces combattants, qui parfois étaient d'anciens légionnaires, des gens comme ça, qui parfois étaient partis simplement par amour des armes, ont expliqué aux militants du PKK en leur disant mais les mecs, là ça va pas. C'est-à-dire que vos combattants hommes, leur esprit de sacrifice, cette espèce d'esprit du du martyr. Il faut arrêter avec ça. Parce qu'il y a plein de combattants hommes qui meurent pour rien. Elles, les femmes, elles ont fini. Ça fait longtemps qu'elles sont sorties de ce côté macho, patriarche, etc., etc., du martyr et tout. Et elles sont extrêmement efficaces. Elles n'ont pas besoin de chaînes de commandement compliquées, etc., alors que chez les hommes, ça existe encore. Voilà, petit exemple de comment la critique peut amener les choses et comment, y compris, ils sont très, très ouverts à cette critique-là. Moi, je ne suis pas pro-PKK, hein, mais... je suis convaincu par la pratique qu'ils ont, justement, sur des retours critiques sur leurs propres expériences et sur leurs propres... Par contre, bon, c'est comme dans tout mouvement, hein, tout le monde n'est pas d'accord et on ne sait pas de quel côté ça peut aller.
Cette même militante, elle disait également qu'il pouvait y avoir une certaine idéalisation dans les milieux de gauche, ici en France et libertaire, de ce qui se passe là-bas. Vous, comment vous avez conscience de ça? Comment vous positionnez par rapport à ça?
Ben, Daniel, il s'est positionné bien, je trouve, critique et attentif. C'est quand même des expériences comme ça, c'est quand même des prunelles des yeux. Il n'y en a pas beaucoup. Mais effectivement, tu as raison, une partie de la gauche ou des anarchistes sont non pas critiques, mais... je pense qu'ils ne mettent pas le nez dans la théorie de la chose assez. Ils disent que c'est des stratégies pour... voilà, c'est... Comment dire? Pour faire la promotion du mouvement. Ça, je ne pense pas que ça soit vrai. Et d'autres... Ils vont tête baissée. Ouais, c'est super, c'est l'idéal, etc. Non, c'est un peu comme la ZAD. En plus, il y a une histoire avec la ZAD, entre la ZAD et Rojava, je vais vous le dire ça aussi. Et à la ZAD, il y a un projet politique, il y a des façons de faire. Et même dans les collectifs qui font des différentes activités, ils disent, nous essayons, parfois nous nous plantons. Nous essayons autre chose. C'est vraiment en essayant, en se trompant, nous trouvons le bon chemin ou la bonne façon de faire. C'est un peu... il faut voir un peu comme ça, si je pense personnellement moi. Et là, quant à l'histoire entre la ZAD et le Rojava, et le Rojava, à un moment, a fait un appel. Ça remonte à peu près deux ans, je pense, un an et demi, deux ans. Et en disant, s'il y a d'autres endroits au monde, et nous savons qu'il y en a, des lieux autonomes, qui se nomment autonomes, déclarez votre autonomie pour nous soutenir. Et la ZAD Notre-Dame-des-Landes a pris vent de ça. Ils ont pris vent parce qu'ils suivent de très près ce qui se passe dans le mouvement kurde, et dans toutes les parties de Kurdistan. Il y a d'ailleurs un collectif qui sort un mensuel que Kurdistan publie. C'est vraiment très riche. C'est une revue de presse mensuelle qui s'appelle Merhaba Hevalno. Vous pouvez le trouver dans les chroniques. Que tout le monde peut imprimer ou lire en ligne et distribuer. Ça se distribue beaucoup dans toutes les villes en France, en tout cas, je le sais. Et bref, la ZAD, suivant ce qui se passe à Rojava, a su cet appel et ils ont répondu, même symbolique, si c'était symbolique, en déclarant leur autonomie. Et ça, c'est une de mes plus grandes fiertés ou plaisirs, je sais pas, c'est un salaire de PDG pour moi. Et la communication s'est passée sur Kurdistan. L'appel est passé et la ZAD a répondu sur Kurdistan. Ce qui nous a liés aussi et pour... poursuivre avec la sortie de Merhaba Hevalno.
Ils avaient en fait demandé à corriger la traduction française de leur charte. Et parce qu'enfin, ils nous l'avaient envoyé, on l'avait trouvé, on leur avait dit, mais attendez, c'est imbuvable, quoi. Bon, faut refaire ça. Et donc, ils nous ont dit, bah, faites-le, quoi. On leur a fait la traduction, on leur a même fait une mise en page. Donc,
c'est pas le projet social de Rojava. Hein. Ça aussi, on a publié, mais il s'agissait de la charte de Tevdem, qui est l'entité administrative, on va dire, de Rojava. Voilà, du coup, on était en lien. Bon, tout est la boucle est bouclée, c'est génial.
J'ai une question. Donc il y a d'autres formes de gouvernement et d'autogouvernement qui se construisent là au Rojava, c'est aussi une situation de guerre et qu'il faut que le jeu est trouble au Moyen-Orient et qu'il faut savoir construire des alliances ou aller les chercher parce qu'il faut des armes, parce qu'il faut des moyens. Et alors comment on fait en fait quand on ne reconnaît pas l'État pour soi et qu'on va chercher l'aide, je ne sais pas moi, de l'État russe par exemple ou celui des États-Unis. Enfin, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait puisqu'on a offert, on a affaire à des monstres entre guillemets, des choses qui, des États qui vont nous instrumentaliser ou etc. Comment on fait quand on est un gouvernement de Rojava pour se défendre et trouver des alliances à l'extérieur, au-delà des chers camarades de la ZAD, de Paris et que sais-je.
C'est la grosse question en fait, parce que on a vu des oscillations qui sont faites, qui étaient dramatiques ces derniers temps, justement par le biais du TEFDEM, l'administration du Rojava, qui a fait des déplacements aussi bien à Moscou qu'à pour chercher justement sur la question des armes entre autres, hein, et qu'à Washington, et qui au sortir à chaque fois faisait des discours qui étaient plus ou moins troubles et qui finissait par faire que certains disaient, quand c'était du côté de Poutine, oui, ben finalement, si le Rojava existe, c'est parce qu'ils avaient conclu un accord avec Bachar. Donc ces vieilles lunes sont revenues. La question reste, c'est évident que dans le cadre des négociations qui pourraient s'annoncer, je veux dire, tout le monde sait que le Rojava risque de disparaître dans cette affaire, parce que personne ne va en vouloir. Sur ni les Russes, ni les Américains, ni les Iraniens, ni les Turcs, ni personne. Donc, le représentant du Rojava en France, ils ont une antenne à Paris, là, répond sur ces questions-là, c'est de toute façon, on a besoin. Il faut instrumentaliser au maximum, il faut en tirer le maximum, mais il ne faut pas faire de concessions. Donc, il explique ça en permanence. Et par exemple, il fait pas de concession dans le genre où quand il est invité à des négociations plus ou moins occultes à Moscou pour des trucs comme ça. Enfin, il me disait dans une séance à Paris, là, quand on discutait, il me disait, j'ai demandé à Lavrov, je lui ai dit, mais ça sert à quelque chose que tu m'aies fait venir là? Et c'est un militant historique du PKK, le gars, hein, donc il peut se permettre. Mais bon. Et le Lavrov lui dit non, mais ça sert à rien, mais bon, c'est utile pour nous. Il dit bon, je m'en vais. Et le « je m'en vais », ça veut dire « c'est pas parce que tu es en train d'essayer de m'introduire pour que je puisse participer au processus de négociation que je vais te faire des concessions ». Donc, il a exactement la même attitude vis-à-vis des partis politiques français. C'est-à-dire qu'il dit « la gauche française, il vaut mieux l'avoir avec nous que contre nous ». Mais par contre, ils ne nous sont pas franchement utiles, parce que bon, quand ils ont fait leur discours, ils s'en vont. Mais bon, au moins, on ne les a pas contre nous. Donc il y a cette espèce de pragmatisme chez les dirigeants du Rojava, les personnalités, qui fait que sur ces questions-là, ils dansent sur des œufs, hein, en permanence. Mais de toute façon, la question est fondamentalement posée lors de la disparition du Rojava à terme. Si il ne se passe rien d'autre et si en gros l'alliance arabe, etc., et la confédération Nord-Syrie ne l'emportent pas. Enfin, la bataille de Raqqa, c'est une façon de prouver au monde entier que les Kurdes ont des propositions politiques. C'est pas une façon de prouver au monde entier que militairement ils sont capables de gagner contre Daesh. Mais c'est pour se donner une légitimité, pour faire passer des propositions politiques. Leur processus est en voie de... Enfin, l'Union Confédération Syrie Nord, faudra peut-être pas faire la fine bouche, parce que du coup, il y a d'autres concessions politiques qui sont faites. C'est-à-dire que la question du communalisme, elle passe un peu au second plan, au profit de la question de l'unité entre tous, et de la confédération au niveau de la Syrie. Donc, ils sont sans arrêt dans la négociation à ce niveau-là, mais tout en ayant leur base claire derrière.
Bon, on sait ce que c'est le contexte de la liberté d'expression aujourd'hui en Turquie et les pays alentours. Vous, aujourd'hui, Kadistan, est-ce que vous subissez des pressions? Est-ce que, même bien qu'étant en France, vous pouvez être inquiété? Est-ce que...
Bon, en Turquie, pour l'instant, Kurdistan n'a pas été interdit ou effacé d'Internet. Mais de toute façon, ça ne sert à rien. Nos lecteurs utilisent... Enfin, les lecteurs turcs, ils savent tous utiliser turc ou kurde, qui sont de Turquie, on va dire. Des VPN et contourner la situation.
Ils viennent officiellement de donner une liste d'une douzaine d'outils informatiques VPN qui, en cas d'utilisation, feront l'objet d'une inculpation. Hein. Donc, ça a été publié la semaine dernière. Hein.
Ça, j'ai pas vu. J'apprends.
On a partagé sur la page.
j'ai pas lu parce que ça a dû tomber à un moment où j'étais trop occupée.
Le truc, c'est que on n'a pas fait l'essai pour l'instant d'aller nous-mêmes sur un aéroport à Istanbul, mais je pense qu'on risque de faire un aller-retour rapide.
Toi? Donc,
moi, en ce qui me concerne, concernant Naz, vas-y, explique.
Bah, moi, je suis binationale, donc la République turque peut mettre sa main sur moi sans problème. Donc j'évite pour l'instant d'y aller. Voilà.
Bon, on a des attaques récurrentes, hein, mais bon, on est bien protégé. Bon, il y a eu, on a eu une histoire avec au moment du coup d'État justement. Quand on a publié un article sur le coup d'État, il avait atteint 35 000 lecteurs dans la demi-journée, sitôt sa publication. Et là, notre hébergeur nous a suspendu le site pendant une semaine. Parce que, en fait, en même temps que cet article faisait un nombre de lecteurs énorme, on avait aussi des milliers d'adresses IP qui nous arrivaient dessus. Enfin, attaque DDoS classique sur Internet, c'est le basique des attaques. Je veux dire, pour faire en sorte que notre hébergeur nous vire, quoi.
Parce que c'était un hébergeur, c'était un serveur mutualisé. Et en faisant ce genre de requêtes, des milliers de requêtes en seconde, ça occupe la bande passante. Et du coup, on gêne tous les autres sites voisins. Du coup, on s'est fait un peu jeter, mais on a trouvé...
On avait exactement dans le même temps des embêtements sur Facebook, sachant que tous les groupes kurdes ont eu, durant toute cette époque-là, des fermetures de groupes, des fermetures de pages, etc., de la part de Facebook.
La visibilité bridée, par exemple. Il y a des différentes techniques que les utilisateurs ne savent pas, mais quand on tient une page un peu sensible, on subit plein de trucs.
Et Facebook lui-même a reconnu auprès des mouvements kurdes anglais qu'il faisait ce travail-là, et qu'il avait recruté 41 personnes traducteurs turcs pour le faire. Et on sait très bien en Allemagne.
En quel honneur ?
Comment ?
En quel honneur ?
Ben, simplement parce que Facebook a des intérêts à défendre en Turquie, c'est un public énorme. Les réseaux sociaux en Turquie sont beaucoup plus utilisés qu'en Europe quasiment. Donc c'est un manque à gagner absolument énorme. Donc,
la moindre fermeture. Facebook perd de l'argent parce qu'il ne peut plus, mais pour qu'il y ait ses publicités à côté. Donc c'est un marché. Et pour ne pas perdre ce marché-là, ils caressent le régime dans le sens du poil.
Et ça, ils l'ont reconnu. Hein.
Ouais.
Donc c'est vrai qu'on s'est retrouvé un peu dans ce cas de figure. On a été obligé de créer une page Facebook secondaire. Parce que c'est. Bon, on ne peut pas se contenter d'un site, parce qu'un site, c'est une pancarte au milieu du web. Si personne ne passe devant, personne ne la voit. Donc les réseaux sociaux nous servent de lance-pierre en fait, c'est-à-dire qu'on propulse nos articles comme ça, via Twitter, via différentes choses, donc c'est indispensable pour nous aussi. Et ça, bon, Facebook nous bride parce qu'on lui rapporte pas un rond, parce qu'on se diffuse tout seul.
Et on n'achète pas des j'aime, voilà, comme ça se fait dans les partis politiques actuellement, pour les élections, là ça y va.